Bonsoir à tous. On vient de chanter que de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. C'est vrai, c'est une parole vraie. Et par rapport à ce que nous allons voir ce soir, j'ai une question qu'on peut poser déjà. Est-ce que vous croyez que la grâce coulera éternellement ? Non, un jour la grâce va s'arrêter de couler. C'est vrai qu'on a... On a chanté que ça coule comme un fleuve constamment, mais un jour, la grâce va s'arrêter. Un jour, il sera temps de passer à autre chose. Il y a quelque chose qu'on croit posséder, qu'on ne possède pas, c'est le temps. Souvent, on dit « j'ai le temps », alors on reporte à plus tard certaines choses. On se dit « j'ai le temps de faire ceci » ou « j'ai pas le temps de faire cela », mais la plupart du temps, on croit qu'on a le temps. Et s'il y a bien une chose qui ne nous appartient pas, c'est bien le temps. On est passé de 2016 à 2017. Je ne sais pas si vous le saviez, en 2016, on a vécu une seconde de plus. Et des fois, c'est un petit souci mécanique qui pose quelques problèmes dans les logiciels. Croyez-moi, je suis bien placé pour le savoir. C'est des petites choses. L'homme, il doit se caler sur une horloge qui est différente. Parce que l'horloge humaine, eh ben, elle a besoin d'ajustement. Et il y a une horloge qui là-haut, qui est fixe, qui est bien réglée, et c'est sur elle qu'on se cale. Parce que le temps, il appartient à Dieu. Alors par rapport à cette réflexion que j'avais, j'ai réfléchi un peu sur la notion du temps, et comment le temps intervient dans notre vie, et surtout comment nous devons vivre par rapport à ces choses. J'avais envie de partager avec vous une première lecture dans le livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est le roi Salomon, et le roi Salomon nous parle beaucoup du temps dans ce livre. On va en lire quelques passages. Au chapitre 3, la Bible nous résume, à travers ce passage, un peu la vie sur la terre. Au verset 1er, je lis ceci, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître. » Et un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Et nous arrêterons là. Je le dis souvent, même si je prêche pas beaucoup. Comment l'homme peut-il imaginer l'éternité, lui qui a toujours connu un début et une fin? C'est impossible. L'homme, dans toute son existence, est confronté à des choses, à des personnes qui un jour naissent et un jour meurent. Comment cela se fait-il qu'on n'ait même plus imaginé que l'éternité existe? C'est impossible. C'est impossible. Il y a une seule raison, et nous venons tout justement de la lire, c'est que la pensée de l'éternité, c'est quelque chose qui reflète un attribut de Dieu. L'éternité, Dieu est éternel, c'est quelque chose qui est une part de Dieu que Dieu met dans notre cœur. Et si ce texte est là, nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu, on peut affirmer que tous les hommes, toutes les femmes sur la terre se posent un jour cette question. C'est obligé, c'est écrit. L'éternité, qu'est-ce qu'il y en est ? Après la mort, qu'est-ce qui va se passer ? C'est une question, on se pose tous cette question. Mais cette question, est-ce que nous pouvons nous rendre compte un seul instant qu'elle ne vient pas de nous ? Cette question, elle vient de Dieu. Pourquoi Dieu nous a mis une question dans notre cœur ? Pourquoi nous a-t-il mis cette question ? C'est pour qu'on essaye de trouver la réponse. Ça veut dire qu'il y a peut-être une éternité qui existe. Et alors, l'homme qui est sincère, qui est honnête, il va se mettre à chercher. Il va chercher. Et s'il cherche d'une manière honnête et sincère, il va trouver celui qui a mis cette question dans son cœur. Si Dieu nous a mis justement cette question dans notre cœur, dans le cœur des hommes, c'est justement bien parce qu'elle existe. Alors, dans le temps que Dieu nous accorde sur cette terre, qu'est-ce que nous allons en faire de ce temps ? À l'échelle de l'éternité, qu'est-ce que 80 ans ? C'est un grain de poussière. C'est rien du tout. La plupart du temps qu'on va vivre, entre guillemets, c'est pas là maintenant, c'est plus tard. Et pourtant, Dieu a fixé un temps où il faut que nous nous positionnons. On a chanté que la grâce, elle coule, mais la grâce, elle ne va pas couler toujours. Un jour, elle va s'arrêter, la grâce. Il ne faut pas jouer avec le temps. On n'a pas le droit de dire « le temps m'appartient, je m'en occuperai demain ». On ne sait pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas ce qui peut arriver même dans une demi-heure à la sortie de cette église. Il faut se positionner. J'ai même plus besoin de parler de la croix, tellement on a pu chanter sur la croix. Merci Nicolas. Le Seigneur Jésus, il est venu sur la terre pour pardonner nos péchés. Il a souffert pour que nous, on puisse être réconciliés avec Dieu, pour que justement, on puisse avoir cette réponse à cette question de l'éternité. Où est-ce qu'on va la passer, cette éternité ? Le sacrifice de Jésus sur la croix nous dit que par son sacrifice, par ce sang qui a coulé, nous avons le pardon de nos péchés. Quoi que nous ayons fait, grâce pour le plus coupable d'entre nous, nous pouvons être sauvés. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, par rapport au temps, j'ai relevé deux, trois petites choses dans ma Bible, j'ai regardé quelques textes qui en parlaient, et j'ai relevé deux, trois pensées. Il y a une première pensée que j'avais envie de parler, c'était l'impatience. Alors l'impatience, je suis allé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est ? Alors il y a trois définitions. C'est un trait de caractère d'une personne qui ne peut s'empêcher d'agir. Il faut qu'on fasse quelque chose, même s'il ne faut pas qu'on le fasse, mais on ne peut pas s'en empêcher, on le fait quand même. C'est un état de quelqu'un qui supporte avec difficulté les choses ou les personnes importunes. Ça veut dire que dans une situation où on ne se sent pas à l'aise, on a vraiment du mal à le vivre. C'est l'état de quelqu'un qui ne sait pas ou ne peut pas patienter, attendre avec calme. Ça, c'est l'impatience. Et l'impatience, je pense qu'on peut tous dire que nous sommes impatients. Moi y compris, je suis impatient. Sur beaucoup de choses, on est impatient. Et on a quelques versets dans la Bible qui nous parlent de ça. Prenez par exemple, ne cherchez pas, je vais vous les citer, dans le livre des psaumes, vous pouvez les noter si vous voulez, le psaume 40, au verset 18, il dit, c'est David qui parle, le psalmiste, « Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi, tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas, comme si Dieu pouvait être en retard. » Est-ce que Dieu peut être en retard ? Non, il ne peut pas être en retard, Dieu. Un autre passage, c'est toujours David qui écrit « Moi, je suis pauvre et indigent, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur, éternel, ne tarde pas. » Alors, ce sont des versets qui sont bien aussi, parce que ça montre quelque chose. C'est que David, il était dans la souffrance, et il a un bon réflexe, c'est de se confier en Dieu. Alors, peut-être, il lui demande de se dépêcher. Mais le réflexe est quand même bon, vous ne croyez pas ? Je pense que quand on est dans la souffrance, quand on est dans une situation difficile dans notre vie, c'est un bon réflexe que de se confier en Dieu, même si on lui dit « dépêche-toi », au moins Dieu, il voit vers qui on s'est tourné. Il est important de se tourner vers Dieu. Et c'est ce que David faisait. Daniel, aussi un grand homme de Dieu dans l'Ancien Testament, qui dit aussi « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis, ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » On peut même être un serviteur du Seigneur et on pourrait aimer que Dieu se dépêche dans certaines situations. Et pourtant, c'est le temps de Dieu qu'il faut. Alors, en réponse à ces questions qu'on peut avoir, j'ai relevé encore deux textes. Dans Habacuc, c'est un verset qu'on cite souvent, au chapitre 2, verset 3, il est dit ceci, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, parce que quand le Seigneur nous fait une promesse, ou si on a reçu une promesse, on peut très bien se trouver aussi dans la patience que Dieu réponde. Il faut nous appuyer sur ces textes, parce que c'est là-dessus où on aura la paix, justement, et on aura la patience d'attendre le temps fixé. Dans les Lamentations, on l'a lu tout à l'heure, chapitre 3, verset 26, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors on peut être dans la patience, mais il nous faut avoir ces bons réflexes. Il y a une phrase qui m'a surpris quand je l'ai vue, parce qu'elle sortait du lot, c'est Jésus lui-même qui parle. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 50, Jésus aussi dénote une certaine impatience, c'est étonnant. « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Et pourquoi Jésus était impatient, au fait? Jésus, il était impatient des souffrances qu'il allait endurer pour nous. De toutes ces souffrances qu'il attendait à la fin de son parcours sur cette terre. Ce pourquoi il était venu. Pourquoi il avait envie de souffrir? Non. Jésus, il attendait ce moment parce qu'il savait qu'à partir de ce moment où il mourrait sur la croix, on pourrait enfin être réconcilié avec Dieu. Parce que ce serait le moment où vraiment le prix serait payé, où tout serait accompli comme on l'a chanté. Jésus a dit « Tout est accompli ». C'est ce moment-là. Et Jésus était sur la terre, il était aussi pleinement homme, et peut-être pouvait aussi avoir, entre guillemets, certaines impatiences. Mais quelle bonne impatience il avait. Il avait les yeux fixés sur ce qu'il devait faire, sur sa mission. La patience maintenant. Je suis aussi allé voir dans le dictionnaire, même si c'est le terme opposé, parce que c'est toujours parlant d'aller voir la définition. La patience, qu'est-ce que c'est? C'est une aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs, faire preuve de patience. C'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Ça ne vient pas tout de suite, mais on attend. On est dans une posture calme. C'est la persévérance, et ça j'aime particulièrement cet aspect de la définition, parce qu'elle nous parle beaucoup de Dieu finalement. C'est la persévérance, la constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Ça c'est la patience de Dieu. C'est la patience de Dieu qui lui a les temps fixés. Et il patiente. Et il patiente parce qu'il poursuit un but bien précis. Jésus, sur la terre, a aussi patienté. Il a attendu son heure. Il attendait son heure régulièrement. Il disait « Mon heure n'est pas venue ». Dans l'évangile de Jean, il en est question. Jésus agissait au moment opportun. Toujours. Et il est mort au moment opportun. La patience de Dieu. Il y a un verset dans l'épître de Paul aux Corinthiens qui dit « L'amour est patient ». L'amour, ça nous parle de Dieu, on dit que Dieu est amour, Dieu est patient. Il y a un autre verset, c'est l'apôtre Pierre qui dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors c'est vrai, nous qui sommes chrétiens, on a hâte à ce que le Seigneur Jésus revienne. Moi le premier. Et pourtant, le fait que Dieu attende, c'est pas là encore un effet de sa grâce. si quelqu'un de vos familles ne sont pas à lui et qu'il va attendre juste le temps nécessaire pour qu'il puisse se convertir. C'est une grâce. La patience de Dieu est une grâce. C'est encore une grâce pour nous, pour vous qui n'êtes pas convertis. Pour l'instant, la grâce est ouverte à cette heure, à ce moment, comme on l'a chanté. Mais demain, on ne sait pas. Il y a un temps favorable. Et là, j'ai encore deux versets. Mais je t'adresse ma prière au Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Ça, c'est dans les psaumes 69. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul écrit, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Le temps favorable, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est ce soir. Ne partez pas de ce lieu sans être réconcilié avec Dieu. Les temps ne nous appartiennent pas. Le temps ne nous appartient pas. Un troisième aspect du temps, c'est un troisième type de temps, on dirait. C'est quand la Bible parle du temps qui est proche. Il nous parle du retour de Jésus. Dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 3, il dit ceci. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Je l'ai déjà rabâché depuis que j'ai commencé à parler, mais il est urgent de nous convertir. Il est urgent de prendre position pour Dieu. Et c'est pas seulement prendre une position, c'est pas une position politique dont je parle. Prendre position pour Dieu, c'est lui demander pardon pour ses péchés. Parce que le Seigneur Jésus, il est prêt à nous accueillir les bras ouverts. Il est mort pour ça. Il est venu sur la terre pour ça. Il ne va pas nous refuser. Qui que nous soyons, il nous faut nous approcher de lui. Parce que pour l'instant, il est sur le trône de la grâce. La grâce est là. Par contre, Dieu a toujours ses temps fixés. Un jour, la porte se fermera. Dans l'Ancien Testament, souvent, on lit ce genre de verset. Par exemple, j'en cite un dans l'Exode. « Tu observeras cette ordonnance au temps fixé, d'année en année. » Parce que Dieu, il a fixé des temps. Et personne ne pourra reculer ou avancer les temps que Dieu a fixés. Dans Hébreux, il est dit « Dieu fixe de nouveau un jour ». Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On croit qu'on a le temps et on recule, et malheureusement, on va s'endurcir. Le temps qu'on pense avoir est un mauvais allié. Combien de personnes pensaient avoir le temps et finalement sont reparties avant l'heure ? L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alors qu'est-ce que ça veut dire racheter le temps? C'est pas très français comme expression. Racheter le temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase qui est employée, qui est mal traduite dans notre Bible. Mais c'est une phrase qui veut simplement dire qu'il nous faut bien employer le temps qu'on a à vivre. À quoi nous occupons-nous dans nos journées? Que faisons-nous du temps que Dieu nous accorde de vivre? Alors, pour ceux qui sont peut-être convertis, je reviens à une question qu'on a débattue il n'y a pas plus tard que quelques minutes, mais à quoi passons-nous nos journées? Que faisons-nous du temps que Dieu nous donne? Est-ce que nous utilisons ce temps pour des plaisirs du monde, ou est-ce que nous utilisons ce temps pour le service de Dieu? Parce que le temps que Dieu nous donne de vivre, c'est parce qu'il a aussi toujours ce dessein pour chacun d'entre nous. Il y a des œuvres qui sont préparées à l'avance par Dieu et il veut que nous les pratiquions. Et donc le temps que Dieu nous donne, il faut bien l'utiliser parce qu'on n'en a pas beaucoup à l'échelle de l'éternité. Le temps que Dieu nous donne, bien l'employer. Enfin, comme je disais aussi tout à l'heure, Dieu, il est souverain. Dans 2 Samuel, chapitre 24, verset 15, il est dit « L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. » Dieu avait décidé de quelque chose, mais au-delà d'un certain temps. Donc, dans les souffrances qu'on peut avoir, dans ces temps difficiles qu'on peut vivre, eh bien, c'est quand même une assurance de savoir que le temps, il est fixé par Dieu, et qu'à un moment donné, Dieu va dire « ça suffit ». Et si vous êtes dans cette situation, peut-être dans la souffrance, peut-être vous passez par le deuil, j'en sais rien. C'est quelque chose de terrible, le deuil, de perdre un être cher. On peut mettre du temps à s'en remettre. Mais à un moment donné, on sait que Dieu, dans cette souffrance, eh ben, il va intervenir et il va mettre un terme à la souffrance. Après la pluie, viendra le beau temps. Ça, c'est une assurance qu'on peut avoir. La venue de Jésus. L'apôtre Paul écrit aux Galates, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Jésus, il est arrivé, ce n'était pas au hasard. Dieu ne joue pas aux cartes, ne joue pas au dé, c'est Einstein qui le disait lui-même. Dieu, il sait ce qu'il fait. Et les temps sont dans sa main, ne sont pas dans la nôtre. Quand Jésus est venu, là encore, c'était au moment que Dieu avait choisi. Le temps était fixé par Dieu. La venue de Jésus, la première, était fixée par Dieu. Mais la deuxième venue de Jésus est aussi fixée. Excusez-moi d'insister. Mais il ne faut pas repartir en croyant qu'on a le temps. Le temps du retour de Jésus est fixé. Ça veut dire qu'un jour viendra le moment où Dieu dira « Vas-y, va chercher ton église, c'est l'heure. » Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? C'est ça la question. Est-ce que dans le temps que Dieu vous donne, vous pouvez dire que vous êtes prêts? Que si le Seigneur Jésus il revient là tout de suite, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes en paix avec Dieu? Est-ce que par rapport à votre vie et aux péchés qui sont sur votre cœur, vous avez demandé pardon? Est-ce que la paix est dans votre cœur? Oui ou non? C'est une question que vous devez savoir y répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, là, au moment où je parle, vous êtes en paix? Est-ce que dans les choses que vous faites, les choses que vous pratiquez, vous êtes en paix avec ce que vous pratiquez? Est-ce que vous vous posez la question de savoir si Dieu est en phase avec ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans le mensonge? Est-ce que vous volez? Est-ce que vous êtes dans des relations sexuelles illicites? Est-ce que vous êtes... je ne sais pas. La Bible nous définit, dans le livre des Corinthiens, l'apôtre Paul explique tous les différents péchés. Il y aura les menteurs, il y aura les idolâtres, il y aura les voleurs, il y a toute une liste. Mais même sans l'avoir, cette liste, on le sait en nous-mêmes si, aux yeux de Dieu, on est clean ou pas. Est-ce que devant Dieu... ça va. Est-ce qu'on est prêt? Je vais lire un passage toujours dans l'Ecclésiaste. Là, vous pouvez peut-être le prendre avec moi, c'est au chapitre 8. Là, Salomon revient justement à nouveau. Au verset 1er, je lis « Qui est comme le sage? Et qui connaît l'explication des choses? La sagesse d'un homme fait briller son visage et la sévérité de sa face est changée. Je te dis, observe les ordres du roi, et cela à cause du serment fait à Dieu. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui et ne persiste pas dans une chose mauvaise. » Ça, c'est une parenthèse sur ce verset. Vous avez vu ce qui est écrit pour ceux qui sont convertis. Ne te hâte pas de t'éloigner de lui. Il est question du roi, mais à travers le roi, on peut penser que c'est Dieu qui s'agit. Quand je suis dans la présence de Dieu, la Bible me dit « ne te hâte pas de t'éloigner de lui ». Parce que Dieu a peut-être quelque chose à te dire, mais si tu pars trop tôt, tu ne pourras pas entendre ce que Dieu a à te dire. Ne persiste pas dans une chose mauvaise, car il peut faire tout ce qui lui plaît. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira « que fais-tu » si Dieu te dit quelque chose? Quelle réaction tu vas avoir? Si Dieu te dit « tu es dans le péché, il faut te repentir ». Mais si c'est Dieu qui te le dit, qu'est-ce que tu as à te rebeller contre ça, si c'est Dieu qui te le dit? Personne ne peut se permettre de répondre à Dieu. Quand Dieu nous fait un reproche, c'est qu'il est forcément juste. Sinon, Dieu ne nous le dirait pas. Et quand Dieu nous emmène dans certaines voies, nous qui appartenons au Seigneur, peut-être, des fois on a du mal à marcher dans certaines voies et on aurait peut-être tendance des fois à se demander « Mais qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas. » Mais si ça vient de Dieu, si la parole qu'on a reçue vient de Dieu, on ne peut même pas poser cette question. Parce que si on sait que c'est de Dieu, eh bien on attend et on obéit. Je continue. « Celui qui observe le commandement ne connaît pas de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Car il y a pour toute chose un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. » Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Là encore, c'est la Bible qui parle. Elle dit clairement que la vie ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. La vie ne nous appartient pas. Notre corps même ne nous appartient pas. Nous sommes en location dans notre corps. C'est quelque chose que Dieu nous prête. Parce qu'un jour, on va sortir de ce corps, parce que le corps, il va rester là. Ce qui est important, c'est notre âme, est-ce qu'elle est prête à rencontrer Dieu ? Le corps, il va rester là. Mais notre âme, est-ce qu'elle est prête à rencontrer Dieu ? Il ne nous appartient pas de savoir quand est-ce que notre âme va aller à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est temps de t'y préparer. Il est temps de régler ce que tu as réglé dans ta vie. Parce que le temps ne t'appartient pas. Et je vais m'arrêter là. Seigneur Jésus, nous sommes heureux pour ta parole. Merci Seigneur Jésus, parce qu'avec amour, tu nous parles. Et tu nous montres qu'il est urgent de faire la paix avec toi, parce que ton plus grand désir, c'est de nous sauver. Seigneur Jésus, merci Seigneur de la grâce qui est là encore ce soir. Merci Seigneur parce que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que ton sang a coulé pour nous. Merci Seigneur Jésus parce que nous pouvons dire que nous sommes prêts, Seigneur. Je te prie pour celui ou celle qui n'est pas prêt, celui ou celle qui n'a pas pris cette décision, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour que elle ne retarde pas le moment, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Amen.